I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons, alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr. Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast qui est désormais intégré à La Relève, l'agence food créative que j'ai cofondée en 2020, spécialisée dans les projets culinaires, les partenariats food et le management de chefs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Alice Tuyette des restaurants Plan D et Faubourg des Mans.
C'est quelque chose qu'on ne dit jamais. Ce n'est jamais écrit sur nos cartes. Je dis toujours, en fait, il n'y a que les restaurants végétariens ou véganes pour écrire restaurant végane. Tu ne verras jamais un restaurant omnivore écrire restaurant omnivore sur la façade. C'est écrit nulle part et c'est pas du tout parce qu'on en a honte ou quoi que ce soit, mais c'est qu'en fait, comme disait Bocuse, il y a deux cuisines, il y a la bonne et la mauvaise. On va pas commencer à catégoriser ensuite les cuisines, ce serait beaucoup trop dommage.
N'ayons pas peur des mots, je trouve qu'Alice, avec son groupe Démon Collective, est en train de révolutionner la food, la restauration, à Paris et en France. Déjà, Plan D n'était pas qu'un plan B, mais un premier lab ambitieux et hyper savoureux où elle commençait à égrener l'air de rien, une cuisine végétale nouvelle et gourmande. Avec Faubourg des Mans, un cap est franchi. Ce n'est pas juste une belle adresse, une bonne adresse, une adresse sympa, c'est aussi et surtout une adresse avec beaucoup de profondeur, de travail, de goût, de technique. Un restaurant qui contribue, c'est certain, à faire changer les cuisines et les mentalités et à apporter de façon plus globale et joyeuse les vertus du végétal. Avec Alice, nous avons parlé de ne pas être dans le modèle, d'inclusivité et de sauce. Bonne écoute. Bonjour Alice.
Bonjour Julie.
Tu m'avais invitée il y a 4 ans dans ton podcast Patate et aujourd'hui on inverse les rôles. Qu'est-ce que ça te fait ?
Ça fait bizarre, franchement c'est l'arroseur arrosé. Là j'ai presque un peu peur, c'est ce que je te disais avant l'enregistrement. Je me suis dit bon maintenant il va falloir être à la hauteur. C'était une chose de t'interviewer, j'étais un peu intimidée. Je pense que c'était numéro 10, 15, 20. Enfin j'avais pas enregistré encore beaucoup d'interviews. Je me rappelle j'étais chez toi, tu nous avais acheté des petites pâtisseries. Enfin, c'était merveilleux.
Et ben maintenant, on est chez toi, donc chez Faubourg des Mans, à l'étage. Et je voulais commencer par tes mille vies, Alice. Avant de monter des Mans Collectifs, t'as fait de la philo, Sciences Po, HEC, un blog food, un podcast patate, donc. Et maintenant, des restaurants. Tu veux nous raconter un petit peu, revenir un peu sur ton parcours?
Ah bah écoute, ça a toujours été touffu.
On a du temps.
Ça va, c'est super. Écoute, j'ai toujours eu une vision profondément artistique, en tout cas de l'existence, une volonté de vivre dans le beau, de vivre dans de la poésie. Parce qu'avant tout ça, moi, j'étais danseuse. J'étais en horaire aménagé dès mes 6 ou 7 ans et j'ai fait ça jusqu'à mes 15 ans. En danse classique et notamment à l'Opéra de Paris, échange au Mariinsky pendant 6 mois. Enfin, j'ai fait vraiment de la danse à très haut niveau. Puis après, je suis rentrée dans le rang. Justement, en étant petite fille d'immigrés, il fallait filer droit, faire des études, un peu le cliché de la famille asiatique. Moi, mes grands-parents ont fui la guerre du Vietnam et mon père est arrivé en France à un peu plus de 10 ans. Et il se trouve que justement, ma grand-mère était restauratrice. Elle avait un restaurant qui s'appelait l'Auberge du Bonheur. Tout un programme
ça
à Garches.
Ça ne s'invente pas.
Ça ne s'invente pas, voilà. Bon, après, il devait y en avoir 250 autres auberges du bonheur, comme le Palais des Délices ou les Mille Saveurs. Mais voilà, j'ai grandi dans cet univers, voilà, très restauration. Et puis en même temps, du côté de la famille de ma mère, grosse culture gastronomique française. Ma mère a toujours cuisiné. On a mangé des plats en sauce, de la blanquette, du bœuf carotte. Cette cuisine bourgeoise que je tends aussi à réinventer aujourd'hui. Voilà, je l'ai connue chez ma mère. Et j'ai grandi, voilà, avec deux cultures gastronomiques extrêmement fortes. Et puis poussée par cet environnement familial, mine de rien, avec la volonté qu'on intègre le système, qu'on réussisse en France, qu'on soit presque plus... C'était ça, il fallait même pas être intégré, il fallait être au sommet du système, pas seulement intégrer le système. Je me suis retrouvée à aller en classe prépa, aller à HEC, Sciences Po.
C'était tacite ou c'était... Non,
c'était quand même assez formulé, assez franchement, dans le côté vietnamien. Je le dis souvent, on avait à peu près 4 choix. Être chirurgien, banquier, avocat ou l'échec. Ce qui laissait pas beaucoup de place, voilà, à la danse classique ou à l'expression artistique ou à la cuisine que j'adorais pourtant en ayant grandi dans le restaurant de ma grand-mère en mettant plus que la main à la pâte parce que, voilà, affaire très familiale. Non, c'était inimaginable. Et comme j'avais certaines facilités à l'école, je me suis retrouvée là-dedans. Moi, j'étais aussi une jeune fille timide. Je voulais faire vraiment plaisir à mes parents. Faire plaisir à mes grands-parents, les rendre fiers. Je pense que c'est un peu un désir universel, hein, de toute façon, d'être aimé de ses parents. On est tous des grands-enfants qui disent « Papa, maman, aimez-moi s'il vous plaît, acceptez-moi. » Et je me suis retrouvée là-dedans. Et en fait, tu vois, de côtoyer tous ces univers-là différents, moi, ça m'a appris à être un peu caméléon et à pouvoir me faufiler dans divers milieux. Et aussi, ça, je vais pas le renier, une force de travail quand même... énorme. Et ça m'a permis aujourd'hui de récupérer plein de lacunes que j'avais en cuisine, tu vois. Ne serait-ce, ça me sert parce qu'il a fallu que je récupère des années de cuisine en peu de temps. Et comme petite, tu vois, j'ai commencé avec la danse où j'allais à l'école le matin de 8h à midi et après à partir de 14h, j'avais entraînement jusqu'à minimum 18h, mais plutôt 20h et je refaisais des cours particuliers, des cours en plus le week-end, des concours partout à gauche à droite, t'apprends quand même à travailler, à être organisé, à discipliner. Et c'est un outil qui m'a permis, qui m'a servi toute ma vie pour pouvoir faire toutes ces activités-là. T'as parlé du podcast, t'as parlé du blog culinaire, j'ai bossé dans des restaurants et j'ai rattrapé aussi, je te disais, mes lacunes aussi en cuisine comme ça.
Et tu décides finalement, donc en 2019, voire même un petit peu avant, le temps de monter le projet, d'ouvrir un restaurant.
Exactement, c'est ça. En 2018 à peu près, je sais que je veux ouvrir le restaurant. Ce qui s'est passé, c'est que je travaillais dans une grosse boîte en Suisse à Bâle, une boîte de duty free, côté très corporate, formateur, énorme boîte, l'open space. Et en gros, ton objectif de vie, c'est de devenir le patron de l'open space. Et après, l'objectif de vie suivant, c'est d'être le patron des deux open space, etc., etc. Et en fait, j'ai eu un proche qui est tombé gravement malade. Et je suis rentrée en France, parce qu'on a un côté très clanique. Tu vois, la culture immigrée m'a pas seulement transmis la valeur travail et le côté dépassement de soi, c'est aussi, vraiment, on est plus qu'une famille, on a un clan. Je suis rentrée à Paris pour ça et j'ai fait littéralement infirmière à l'hôpital et infirmière à domicile pendant un an. Et vraiment dans le soin, dans le care, dans l'assistance à la personne, parce que j'étais trop sensible pour ne pas faire quelque chose. Et à ce moment-là, se pose la question de ce que je veux faire de ma vie ensuite, quoi. Si je retourne à l'open space ou si j'assume un autre choix. Et ben, j'ai assumé le choix de la cuisine. J'ai compris, si tu veux, que toute cette sensibilité, cette hypersensibilité que j'avais, ce besoin de prendre soin des autres, j'avais envie de le vivre absolument au quotidien. Et c'est là qu'est née l'idée d'ouvrir les restaurants en réunissant ce besoin de donner aux autres et cette passion pour la gastronomie. Et d'autant plus végétal, on reviendra sur le végétal, j'imagine, ensuite, et l'importance que ça a dans ma vie et la cause animale. Mais j'ai ressenti ce besoin vraiment au plus profond de mes tripes. Et je revenais à presque un désir d'enfant que j'avais déjà quand j'étais dans le restaurant de ma grand-mère. Et je voulais ouvrir un restaurant comme Faubourg d'Aimant. Enfin, ça aurait été un Faubourg d'Aimant en 2019. Et puis, c'est-à-dire un beau lieu où on peut servir une cuisine bourgeoise, une cuisine travaillée... dans un lieu important, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a 85 couverts. Et il s'est passé qu'en 2020, il y a eu le Covid, et c'était ma première affaire. J'étais une jeune femme, j'avais moins de 30 ans. J'ai tapé aux portes de toutes les banques. je n'ai jamais réussi à financer mon projet en 2020. Parce que j'avais ce projet en 2018-19, le temps de trouver un local, etc. On était déjà en 2020. Sortie de Covid, vous vous rappelez, l'été quand tout le monde était fou après les premiers confinements.
Les terrasses.
C'est ça, c'était la frénésie. Ouais. Tout le monde picolait dehors. Il y avait des terrasses qui n'étaient même plus sur les trottoirs, mais sur les rues. Le voisinage était fou. Bref, c'était un peu cette période-là et j'avais trouvé un local, j'avais signé une promesse de vente, mais je n'ai jamais réussi à le financer. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée aussi à ouvrir Plan D.
Plan B, Plan D. Et donc, ouais, tu te rabats, entre guillemets, sur ce petit local du canal Saint-Martin.
C'est ça, tout à fait. Parce qu'on est passé d'un local où j'avais signé une promesse qui était même plus grand que Faubourg des Mans, c'était de l'ordre de 300 mètres carrés, à un local de 19 mètres carrés.
Ah, ouais, il est vraiment petit d'extérieur et d'intérieur aussi.
il est petit de partout. Fenêtre, petit comptoir. Les Twitch sont gros, et les portions de frites sont grosses, mais c'est ça exactement. Et je me suis dit, il y a une envie entrepreneuriale, il y a le désir d'y aller, il y a une connaissance sur le végétal que je commence vraiment à acquérir, parce que ça faisait 2-3 ans que je bossais à fond ces recettes-là sur cette nouvelle cuisine. C'est trop dommage, en fait, je vais pas jeter l'éponge parce qu'on a eu tous ces refus de financement sur le restaurant. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et c'est comme ça qu'est venu. Petit clin d'œil au plan B, plan D et D comme Twitch et D comme Dément, mais évidemment comme le plan B. Ce petit local qui finalement est devenu quelque chose que j'ai adoré, qu'on a toujours, on a une super équipe aujourd'hui et on est très 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 heureux de l'avoir fait. Je suis très heureuse de l'avoir fait, j'ai appris aussi quantité de choses. Ce qui a pu être un second choix au départ, en fait, s'est révélé être quelque chose que vraiment que j'adore. Ouais. Et puis, tu vois, au-delà aussi, un exercice d'humilité parce que quand ça fait 4 ans, enfin à l'époque ça faisait 3 ans et demi, 4 ans, parce que là j'ai ouvert à peu près Faubourg, 4 ans et demi, 5 ans après que je quitte mon job. Hein. Mais quand tu dois dire ça à tes potes, à tes collègues, à ta famille, de dire je vais aller réinventer la cuisine végétale, on va proposer le vegan comme il a jamais été vu, que tu quittes des jobs où à deux on gagnait, je sais pas, dans les 200 000 balles en Suisse en premier boulot, et que 3, 4 ans plus tard, il n'y a toujours rien. Et le premier truc qui sort, c'est un local de 19 mètres carrés. Il y a des gens qui te regardent de travers. Hein. Et moi, j'adore ça, parce que ça me fait marrer. Moi, honnêtement, je déteste ce qui est conventionnel. Et j'adore les pas de côté. Du coup, moi, ça me fait rire. Mais il faut soutenir un peu le regard des gens quand tu leur expliques ta vision et que tu y crois et que tu vas y aller. Ouais, c'est super. Hein. Mais c'est sûr que ça a mis du temps. Mais ça n'a été que bénéfique, je pense, pour les projets aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, petit local, mais c'était une belle ouverture, maxi-ouverture, j'ai envie de dire.
Oh, c'est gentil.
Non, mais je trouve que ça a permis de poser les bases aussi de ce que vous vouliez faire avec des mains collectives, de montrer ce dont vous étiez capable, même à une petite échelle, et au final, se dire que à plus grande échelle, ça va être encore mieux, comme on peut le voir ici. Mais je sais pas si c'était presque bénéfique finalement de commencer par plan.
Ah bah aujourd'hui, vraiment, je dis ça a été un mal pour un bien. Hein. Bon, j'enfonce un peu une porte ouverte avec une phrase tartare à la crème. T'es venu écouter quelques banalités. Mais non, vraiment très heureuse a posteriori qu'on ait eu cette expérience-là, parce que un restaurant, faut se rendre compte, c'est pas du tout que faire de la cuisine. C'est aussi du management. Et mine de rien, c'était une petite équipe à Plan D, c'est 6 personnes, mais c'est quand même 6 personnes. Leur salaire à la fin du mois dépend de toi. Et puis, de ta qualité de management dépend leur bien-être au travail au quotidien. C'est un énorme apprentissage là-dessus. Sur aussi, évidemment, étoffer les recettes. Parce que comme on est sur une cuisine qui revoit un petit peu les codes de ce qui se fait, avoir 1 an, 2 ans de plus pour travailler les recettes, pour aller plus loin dans ce qu'on fait, pour faire mieux tout simplement, ça a été très bénéfique et maturer tout un tas de choses, tu vois, que j'assume aussi plus aujourd'hui. Je vais pas mentir, le fait qu'on ait du succès à Plan D, ça m'a permis d'arriver aussi avec beaucoup plus de confiance sur ce projet Faubourg et de faire des choix qui étaient encore plus cohérents avec moi, ce que j'aime, et qui rentraient pas forcément dans les codes de ce que j'imaginais qu'on attendait de moi auparavant.
Quoi par exemple?
Tu vois, c'est un peu crétin, mais je pense qu'on se réfère tous à certains modèles. Ouais, et moi, j'ai fait la même école de commerce que des fameuses personnes qui ont monté Happy & Why et les autres, Tigrane et Victor, qui ont monté Big Mama. Et je pense qu'il y a eu un côté, on est tous aussi rentrés dans une mentalité comme ça, tu vois, néo-restaurateur, où il faut faire des lieux super chargés, faut faire du bon, pas cher, servi avec le sourire dans un beau lieu. Et tu vois, rentrer, et en fait, c'est génial ce qu'ils font, ils ont poussé leur truc et tout. Mais quand tu vois ça et que tu te dis, bah moi, je crée quelque chose, tu as tendance trop à te raccrocher, à regarder ce qui a été fait, ce qui a fonctionné, pour te rassurer tout simplement, parce que c'est quand même des énormes enjeux, c'est très stressant. Et tu vois, je pensais que des choses comme ça pouvaient être attendues de moi, vu mon parcours et vu ce qui avait fonctionné. Et au contraire, là, j'ai fait des choses qui vont être beaucoup plus personnelles. Tu prends Faubourg, aujourd'hui, on a un ticket moyen qui est vraiment plus élevé que ce qu'on avait envisagé au départ, parce qu'en fait, tout simplement, bah, la sensibilité de notre cuisine le nécessite. C'est une cuisine de travail, de savoir-faire. Et on voulait aussi faire quelque chose de voilà, plus raffiné, plus pointu. On a fait un lieu qui est très, tu vois, pas du tout dans la surcharge ou un côté décor. Au contraire, on voulait quelque chose de très authentique. Et c'est pas des choses forcément que, tu vois, j'aurais assumé en premier lieu en me disant « Non, il faut absolument faire ça pour que ça fonctionne. »
Le côté vegan, pour le dire, a toujours été
on
là.
A du mal à le dire.
Vegan. Mais en fait, c'est tellement pas vegan dans ma tête ce que tu fais que
c'est gentil.
J'ai du mal à le dire. Mais oui, le côté vegan a toujours été là dès le début du projet.
Mais j'adore ce que tu dis, que ce soit difficile pour toi de l'imaginer avec notre projet, parce qu'en plus c'est quelque chose qu'on ne dit jamais, tu vois, ça n'est jamais écrit sur nos cartes.
C'est pas marqué resto vegan sur la façade.
C'est pas placardé sur la façade. Je dis toujours, en fait, il y a que les restaurants végétariens vegan pour écrire restaurant vegan. Tu ne verras jamais un restaurant omnivore écrire restaurant omnivore sur la façade. C'est écrit nulle part, et c'est pas du tout parce qu'on en a honte ou quoi que ce soit, mais c'est qu'en fait, comme disait Bocuse, il y a deux cuisines, il y a la bonne et la mauvaise. On va pas commencer à catégoriser ensuite les cuisines, ce serait beaucoup trop dommage. C'est au départ, vraiment, c'est à l'initiative du projet. Moi, ça a toujours été la feuille de route de faire de la cuisine végétale. Moi, je suis devenue végane aux alentours de 25 ans. J'en ai 33 aujourd'hui. Du coup, ça fait un petit moment maintenant. Et j'avais tellement, tellement, tellement à cœur de réconcilier deux univers qui ne se parlaient pas forcément. Et je me vois vraiment comme un pont. Tu vois, je me vois ni comme une visionnaire, ni comme un génie, ni je ne sais quoi. Ce matin, on me demandait, êtes-vous une visionnaire ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, un pont entre voilà, deux mondes qui ne se parlent pas forcément. Tu vois, le côté ah, vegan, soit c'est les hippies, soit c'est le côté cuisine ascétique, super food, où on ne comprend rien qu'aux ingrédients. C'est des smoothies, c'est des bols de graines et tout. Et l'univers des gens qui savivent, qui aiment manger et qui aiment le gras, qui aiment la sauce et qui aiment la vie. Et je crois qu'on peut, tu vois, faire quelque chose qui est vraiment entre les deux. C'est ça qui me tenait à cœur. Et c'est là où je crois qu'on peut vraiment toucher les gens, c'est toucher leur cœur, toucher leurs âmes. C'est en faisant quelque chose qui est tout simplement très bon et où on s'emmerde pas. Où en fait, il y a une musique sympa, où c'est beau, où c'est bon.
Il y a des bons
c'est
vins.
C'est ça qui compte.
Il y a
des bons vins, il y a des cocktails.
Cocktails avec alcool, sans alcool.
L'expérience du restaurant, c'est une expérience globale. Tu le sais mieux que moi. Ça ne se vit pas que dans l'assiette. Et ça passe déjà même par les mots choisis. Sur ton site internet. Et c'est pour ça que le mot vegan a jamais été mis en avant. Et moi, c'est ma propre conviction, disons, pour ma propre alimentation, mais jamais je ne chercherai à l'imposer à qui que ce soit. C'est juste qu'aujourd'hui, en tant que restauratrice, j'ai envie de montrer que c'est possible de bien manger là-dessus, et c'est une simple proposition. Mais tu vois, jamais moralisatrice ou jamais il faut manger comme ça. Sauf que moi, intrinsèquement, ce en quoi je crois, c'est un moins de viande, mieux de viande, un moins de poisson, mieux de poisson. Et pareil pour les laitages ou les œufs, tous ces autres produits-là, c'est comment est-ce qu'on en mange moins, mais comment est-ce qu'on en mange mieux. Et qu'en face, je voulais proposer une offre où on dit, bah, en fait, c'est très bien en fait, de pousser tout le monde à végétaliser son alimentation pour des raisons santé, environnementale, éthique. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas produire de manière éthique les quantités de viande pour que chacun y ait accès à toutes les bourses midi et soir. Bah, qu'est-ce qu'on propose en face? Et en fait... Si on s'attelle pas, nous, à rendre désirable la durabilité, à faire du légume quelque chose de bon, de sexy, qui donne envie, bah, tu sais pas trop quoi faire. Et nous, on veut autant que ce soit un restaurant où t'invites t'éclater avec tes potes le samedi soir que ton déjeuner du mardi midi avec tes collègues, tu vois, sans barrière ou sans que ce soit un frein, cette proposition. Et je trouve, si on avait mis le mot vegan, etc., au contraire,
tout de suite,
très clivant.
Tu te fermes des portes, des portes. En tout cas, tu fermes la porte à certaines personnes qui ont besoin de se sentir accueillies, effectivement, au-delà de savoir ce qu'il y a dans l'assiette. Mais ouais, et la plus belle, je pense que la plus belle récompense, c'est justement tous ces gens qui viennent sans forcément savoir que c'est, enfin voilà, enfin ce qu'il y a dans l'assiette. Ils viennent goûter la cuisine. Qui est de la viande ou pas de viande, ou du poisson ou pas de poisson, au final. Mais d'ailleurs, quand on lit la carte, on pourrait presque penser qu'il y en a dedans.
C'est ça, si on la lit un peu vite fait en diagonale, il y a deux, trois mots qui peuvent évoquer. Cochonne, rillette, oreille de chardon. Bon, ouais. Tu peux te poser la question si tu la lis vraiment en diagonale. Et en fait, moi, tu sais, je suis jamais plus heureuse que quand j'ouvre mon carnet de réservation et que je vois les commentaires des clients. Je suis allergique, au veau, je suis allergique à l'huître, je ne mange pas de bœuf, parce qu'en fait, juste ça prouve que les gens venaient sans a priori ici en pensant que c'était un restaurant comme un autre. Et c'est là aussi où je suis, tu vois, aujourd'hui fière de l'adresse, c'est que justement, on est en concurrence, le mot est peut-être pas le bon, parce que c'est pas comme ça que je vis, c'est pas une histoire de concurrence, compétition, mais en tout cas, on joue dans la même cour que des bons restaurants qui n'ont pas cette contrainte-là sur le choix des produits. Et c'est ça vraiment la vraie fierté. Et au final, tu vois, j'aime bien aussi à dire que ça peut être le restaurant aussi le plus inclusif.
C'est ce que j'allais
possible,
dire.
Possible. Parce que tu vois, contrainte alimentaire, quand même, aujourd'hui, on parle beaucoup de intolérance au lactose, au gluten. Enfin, dans le gluten, c'était un mauvais exemple parce que, il y a du gluten quasiment dans chaque plat. Ma langue a fourché, désolée pour les clients qui voulaient pas de gluten parce qu'il y en a beaucoup. On essaye de faire des efforts. Mais non, plutôt le lactose ou des protéines, certaines protéines animales, etc. Et aussi pour les croyances religieuses, tout simplement, quand tu veux manger halal, quand tu veux manger kasher, etc. Nous, c'est une table qui est ouverte à tous. Et je trouve ça super beau de se dire, bah ouais, on se réconcilie tous autour de la table. Et en plus, on fait un geste cool. Mais limite, on n'y pense même pas.
Complètement. T'es pas catégorisé quand t'es à table. Tout le monde, peut manger sans se poser de questions. Et ça, c'est vraiment le restaurant de l'inclusivité. C'est ce que j'allais dire. Toi, tu dis quoi alors pour, si tu es amené à dire un mot, tu dis vegan?
Moi, je dis légumière, je dis plant-based. Bon, j'aime pas trop prendre des mots, tu sais, ça fait vachement... Ouais, j'étais HEC, j'ai bossé en start-up, je mets un mot en anglais sur deux dans l'interview. Mais je trouve que le mot plant-based est super beau parce que ça veut tout simplement dire c'est basé sur les plantes, sur le végétal. Ouais. Et en fait, en français, le mot végétalisme est pas très, 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 très joli. Mais tu vois, j'ai beaucoup plus parlé de ce qu'on met, de ce qu'on rajoute, que de penser à ce qu'on retire. Ouais. Je pense que si on veut aussi réussir le pari, c'est penser avec et pas penser sans. Je dis jamais, ah tiens, on fait une cuisine sans viande, sans beurre, sans fromage, etc. Non, on fait une cuisine de sauce avec des très bons légumes, avec des techniques de cuisson géniales pour découvrir les légumes et le végétal autrement. Mais je vais beaucoup plus parler de cuisine végétale, même si je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu le mot fourre-tout, comme le mot vin nature qui crée quelques débats, puisqu'il n'y a pas vraiment un... vin nature, il n'y a pas un label, il n'y a pas un cahier des charges précis. Du coup, tu peux rentrer dedans des choses assez différentes. De la même manière que de la cuisine végétale, tu peux autant parler d'une Manon Fleury qui va utiliser le carnet ou le poisson comme étant plus un condiment dans l'assiette qu'une cuisine comme nous qui est 100% végétale. À la limite, c'est même pas ça qui est important. Encore une fois, c'est ce qu'on fait de la bonne cuisine. Et si je dois vraiment la caractériser, oui, c'est une cuisine végétale.
Et ça vient vraiment de toi, tu disais, quand t'as commencé à manger de cette façon-là, t'as mis la main à la pâte, t'as cuisiné, est-ce que ça vient de tes recettes? T'es pas chef non plus, est-ce que, voilà.
Et parfois, quand on me colle chef, je dis chaque fois, je suis cuisinière.
T'es...
Exactement, tu vois, moi, je me décris souvent comme cuisinière autodidacte, je n'ai strictement aucun diplôme. Je pense que j'ai saturé de diplômes dans tous les autres trucs possibles, imaginables. Je n'allais pas encore en passer un. Tu vois, fallait savoir ça.
Stop.
Justement, au contraire, là, c'est l'expérience de la liberté, de s'affranchir de tout ça et de dire, j'ai pas besoin d'un label pour me sentir bien dans mes baskets. Ce que j'ai toujours recherché avant, tu vois. Je te parlais de désir de faire plaisir et d'être comprise et d'être appréciée. Ça passait par ça. Et aujourd'hui, j'en ai pas du tout besoin dans la cuisine. Et c'est ça qui est hyper cool. Moi, ce qui s'est passé, je te dis vraiment, j'ai grandi dans cet univers de restaurant. Après, moi, pendant mes études, j'ai toujours travaillé. Et j'ai travaillé beaucoup dans des restaurants et surtout en cuisine. Après, quand le projet est venu, je t'ai dit, suite à ce que je m'occupe de mon proche malade, je suis allée travailler chez Grand Cœur et j'ai fait tous les postes en cuisine, ce qui m'a permis là de remettre vraiment bases, tu vois, vraiment sur à quoi ça ressemblait quand c'était pas dans un environnement qui était familier, sans être familial, hein, parce que le restaurant de ma grand-mère était assez gros, mais mine de rien, tu vois, réapprendre comment est-ce qu'on fait tout les choses en bonne intelligence, dans une brigade et avec une vraie technique de cuisine française. Et là-bas, j'ai autant touché de la pâtisserie que du garde-manger, que être au chaud. Et j'ai refait plein de viande là-bas et tout. Et du coup, c'était génial de revoir tout ça. Et puis en plus, le dernier mois, j'ai eu la chance de pouvoir faire de la salle chez eux, ce qui était aussi une expérience nécessaire par rapport à l'ouverture du restaurant. Et tu vois, en parallèle de tout ça, parce que je suis vraiment une bonne cuisinière, mais je suis pas une chef. J'ai travaillé sur toutes les recettes en apportant comment est-ce qu'on trouve via le végétal, enfin comment est-ce qu'on trouve par le végétal le même plaisir que qu'on peut avoir sur le carnet, sur l'omnivore.
C'est ça.
Et c'est là où j'ai rebossé toutes les recettes. Ouais. Tu vois.
C'est ça qui vous a guidé. C'est trouver le même plaisir.
C'est complètement ça qui nous a guidé. Ce que j'ai avant tout, moi, de l'amour, de la bonne bouffe. Et après, il y a eu toutes ces convictions-là. Et c'est comment est-ce qu'on fait rentrer la bonne bouffe, notre patrimoine culinaire, ce qu'on a comme culture gastronomique en France, avec les défis qu'on a aujourd'hui et les questionnements de notre génération, qui sont d'ordre éthique, qui sont d'ordre environnemental, qui sont d'ordre santé, et même, je dirais, des questions sociales, hein, parce qu'il faut réfléchir à comment est-ce que sont les gens qui travaillent dans des abattoirs à la chaîne. Je te parle pas du petit abattoir, mais je te parle... Il faut réfléchir à toutes ces questions-là. Et c'est comme ça que c'est venu. Moi, je suis vraiment à l'initiative, si tu veux, des recettes.
J'ai l'intention.
Ouais, exactement. Et puis même les bases de recettes, moi, elles ont été travaillées vraiment, c'est ça, ouais. Vraiment chez moi, etc.
Ouais, toutes les sauces, c'est ça. Parce que il y a un travail énorme, moi,
sur
je
les
trouve,
sauces, ouais. Ouais.
Sur les sauces,
exactement.
C'est incroyable. Enfin, déjà chez Plondé, toutes les différentes mayonnaises. Enfin, t'as du mal à croire que, même ici, je trouve, on a vraiment du mal à croire que c'est vegan. Enfin, c'est toi qui avais bossé dessus à la maison avec toi, un petit.
Complètement. Et puis en plus, après, j'ai pu faire plein d'essais. J'ai eu la chance parce que moi, il y avait mon ami Arthur Lecomte qui a les restaurants bien élevés, bien ficelés. Ardent. Il me prêtait bien élevé tous les dimanches pour que je fasse mes essais en cuisine pendant un an. Ça a été hyper précieux. En plus, je pouvais tout utiliser, sauf fun fact, je pouvais pas utiliser la friteuse parce qu'eux, ils font leurs frites à la graisse de bœuf.
Ah oui.
Un jour, je fais frire un truc. Mais vraiment, le goût et tout, c'est hyper animal.
C'est hyper fort, je comprends pas.
C'est hyper fort et tout. Bon, ouais, moi, après, je me suis dit, OK, c'est la graisse de bœuf. Mais non, tu vois, j'ai retravaillé tout ça parce que je pense que c'est... Ouais, tu vois, je vais y venir. Mais déjà, sur les sauces, je pense que les sauces, c'est vraiment l'émotion. C'est ce qui t'apporte le relief dans un plat. C'est ce qui te donne la gourmandise. C'est cette idée de reviens-y. Le truc addictif dans un plat, c'est une sauce. Enfin... Les grands cuisiniers ont été des grands sociers. C'était le poste de maître associé était le plus prestigieux dans les cuisines. Puis les grands monuments de la cuisine, tu prends Arnaud Lallemand, Arnaud Donquel, c'est des très 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 grands sociers. Bon, je dis pas du tout qu'on en est là, hein. C'est pas du tout un vision, c'est pas pour se comparer, c'est juste pour dire l'importance de la sauce dans une assiette et que ça, je l'avais compris assez tôt. Et puis en plus, ça véhicule tout un art de vivre extrêmement hédoniste parce que qui dit sauce dit pain. Qui dit pain, dit, tu vois, sauce un plat, et t'as ce côté, et puis c'est la sauce qui tâche. Enfin, pour moi, c'est très important, ça va complètement avec notre vision de la cuisine végétale, cette idée de la sauce. Et oui, ça, c'est vraiment un truc que j'ai porté à titre perso dès le départ de travailler les sauces. Et ça peut être autant des sauces qui vont être moins complexes, comme les émulsions froides, même si, bien, il fallait quand même réussir à sortir les bases d'une émulsion froide, comme une mayo sur le végétal, mais qui restent des sauces assez inratables. D'ailleurs, la mayonnaise végétale, je le dis à chacun, c'est absolument ratable comparé à une mayonnaise classique. À l'œuf. Puis en plus, tu peux la garder très longtemps, parce que t'as pas la DLC des 3 jours, ou je sais plus, c'est 48 ou 72 heures. Je crois que c'est 48
c'est
sur...
C'est très rapide,
sur,
mais ouais.
Bon, on fait pas ça à la maison, mais, ouais. Mais en tout cas, dans un restaurant, normalement, il faudrait la garder 48 heures, la mayonnaise conventionnelle. On a des sauces, je te disais, voilà, qui vont être sur des techniques plus simples, mais après, on a toutes les sauces qui sont comme les jus, qui vont être extrêmement travaillées. Et moi, très tôt, j'ai eu l'idée de me dire, mais en fait, un jus peut être travaillé complètement comme un jus de viande. C'est-à-dire que tu as tes carcasses, tu vas aller les violenter sur le feu, après, tu vas venir mouiller, tu fais réduire, tu remouilles, tu réduis, tu mouilles, tu réduis, tu filtres, et tu peux avoir à la fin un jus sapide, brillant, nappant, hyper sexy. Et en fait, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on le fait pas, en fait, sur des légumes? Et très tôt, c'est vrai que ce fameux jus, il est arrivé très, 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 très rapidement dans le projet. C'est pour ça que on l'a même mis sur les Twitch. Parce que il était trop important. Et pour la street food à Plandé, c'est vrai qu'en plus, on le fume. ce que tu disais, la street food, faut avoir ce côté hyper impactant, première bouchée, tu t'en prends plein la figure, contrairement à une assiette de restaurant, où je trouve plus une relation un peu plus long terme, c'est pas le, pas le petit coup d'un soir où, faut que ce soit hyper impactant. Et je me suis entourée, et c'est pour ça aussi que, en fait, ça s'appelle dément collectif, il y a vraiment l'idée de collectif, il y a une idée d'une démarche collective, je pense que plus qu'ailleurs encore, la restauration, tu sais que c'est un métier que tu peux pas faire tout seul. C'est impossible. Impossible. Il faut être entouré et être entouré et de gens meilleurs que toi, de divers talents et on est hyper vigilant voilà aussi sur le choix de nos collaborateurs pour cela et collectif parce qu'en fait ces recettes à chaque fois elles ont été faites à mon initiative et après ça a été à chaque fois du 4 mains, ça a été parfois du 6 mains. Il y a eu Chewing qui a été au tout début du projet qui est une jeune femme qui est aujourd'hui dans un super restaurant en Suisse. Après il y a eu Joris qui lui maintenant va ouvrir son établissement à Rennes et aujourd'hui c'est Erwan Crier. Qui est un chef absolument génial, qui travaille avec nous depuis près de 3 ans maintenant et qui a fait l'ouverture de Faubourg des Mans et avec qui je fais les recettes aujourd'hui. Et si tu veux, ces personnes-là, moi, elles m'apportent la précision, la technique, la justesse de goût que moi, je n'ai pas avec ma vision et ses premiers jets et ses intentions que j'ai. Et j'ai toujours cherché à m'entourer de personnes qui ne venaient pas du tout du végétal, vraiment sciemment.
Te demander, c'est pas des chefs qui avaient une expérience là-dedans? Au final.
Aucun des trois n'avait touché à ça.
L'association de vous deux à chaque fois, hein, qui t'aide aussi à techniciser peut-être tes intuitions et ton travail.
Exactement, puisqu'en plus, et aussi en plus, ce qu'on oublie, c'est que la grosse différence entre un cuisinier et un chef, c'est qu'un chef, il est capable d'assurer de la constance et aussi d'envoyer des assiettes. Aujourd'hui, on a 250 réservations par jour. En fait, c'est pas le même métier que sortir 3 bonnes assiettes. Et moi, je peux être très mignonne et sortir quelques bonnes assiettes ou être dans une brigade intégrée. Mais jamais je ne pourrais faire, avec toute humilité, je ne peux pas être au pas à organiser ça. Et puis, c'est notre réflexion sur les mises en place, sur comment les choses doivent être faites. Et voilà, c'est vraiment de la co-création là-dessus. C'était absolument nécessaire. Et tu vois, Erwan, avant, il a travaillé longtemps au Carpaccio, le restaurant étoilé du Royal Monceau, le restaurant italien. Et après, il était pendant 3 années au Braque avec le chef Adam Bentala. Pas du tout des adresses sur le végétal. Et là, je crois, c'est intéressant, c'est qu'en fait, pour paradoxalement faire mieux du végétal, il faut passer par le carnet. Et c'est là où on applique, tu vois, on prend des techniques de cuisson. Je te prenais notre jus, je l'appelle le jus de carcasse de légumes, c'est plus pour le doumo. Mais c'est en prenant vraiment ces techniques du carnet, ces techniques de cuisson, ces techniques de réduction, ces techniques de mijotage, tout vraiment ce qu'on peut imaginer. Je pense qu'on pourra, aujourd'hui, on l'a peut élaborer, tu vois, tout ce qui est aussi le fumé, mais c'est des coûts tellement intéressants. On n'a pas forcément l'équipement encore dans ce restaurant-là. Mais c'est en passant par le carnet qu'on arrive à faire mieux du végétal. Et je pense que ça aurait été vraiment de se mettre des ornières et des œillères, pardon, de rester purement focus sur du végétal. Et d'autant plus que, tu vois, je trouve en plus quand tu imaginais, aujourd'hui c'est extrêmement différent, mais quand tu imaginais le végétal il y a une dizaine d'années, on avait tendance, le légume, à pas trop le toucher. Le légume, il doit être juste taqué, il doit être cuit basse température et on préserve les minéraux, un côté un peu clinique, hein, presque du légume, ou en tout cas très pur. Et qu'en fait on peut faire un tas de choses, et c'est génial, tu vois, parce que souvent, je demande à mes équipes en cuisine, ça vous manque pas de cuisiner de la viande ou du poisson, puis vous allez oublier. Mais non, mais en fait, ils sont hyper contents. Tu vois, il y a un nouvel horizon à découvrir. Et aujourd'hui, dans nos équipes, on a très, très, très peu de personnes véganes. Enfin, c'est très marginal. Sur une petite quarantaine de personnes, on doit avoir une personne qui est végane, deux, trois végétariens. Et c'est ça, la vraie réussite.
Et c'est un challenge pour eux?
C'est un challenge parce qu'il y a c'est sûr, il y a de l'apprentissage un peu surtout, tu vois. Tu prends n'importe quoi aussi, comme des postes pâtisserie, une fois que tu retires, tu retires tout ce qui fait la pâtisserie. Le beurre.
Bon,
c'est un nouvel apprentissage où tu vas dire, bah ouais, les bases d'émulsion, bah c'est plus à l'œuf pour le salé, bon, c'est carrément autre chose. Mais en fait, il y a une vraie, vraie appétence et je pense que la cuisine n'est que le reflet de ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se demandent de plus en plus comment consommer plus durable, comment faire plus attention. En fait, il n'y a pas une frontière. C'est pareil chez les cuisiniers et les cuisinières qui aujourd'hui se demandent aussi comment, par leur travail, ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Et même si c'est un défi, c'est un défi qui n'est pas du tout, en tout cas dans nos équipes, ceux qui ont choisi de travailler, vécu comme un sacrifice, et c'est plus conçu aussi comme une opportunité. Ouais. Et nous aussi, on le dit souvent aux gens qui ont envie de travailler avec nous, ça reste, quoi qu'il arrive, que ça te change ou que ça te change pas, que tu restes avec nous à un an ou que t'en as cinq, t'auras ça dans ton bagage. Et moi, je pense qu'après demain, tous les restaurants, il y aura au moins un plat 100% végétal à la carte. Le végétarien est arrivé aujourd'hui, c'est
bien sûr,
dans notre bulle. Hein, ouais. Parce que je sais que tu vas dans certains coins, il n'y a pas du tout une option végétarienne. Mais il y a de plus en plus quand même une entrée, un plat végétarien.
Depuis le Covid, je pense.
Le Covid a beaucoup changé. Je suis d'accord avec toi, maintenant, on le voit
dans,
très fréquemment.
Dans beaucoup de restaurants, c'est vrai que tu as souvent un plat viande, un plat poisson, un plat végétarien.
Et puis qui sort du risotto primavera ou des gnocchi.
Mais ça me choque quand il n'y a plus de... Quand il n'y a pas de plat végétarien.
Bah, c'est
J'étais
génial,
dans un restaurant, super restaurant dans le Perche l'hiver dernier et il n'y avait que des plats de viande. C'était vraiment ultra bon, mais j'étais un peu choquée quand même de voir qu'il n'y avait pas un seul plat de légumes.
Je pense que c'est à nous aussi en tant que restaurateurs de montrer l'exemple et de montrer que c'est possible. Et c'est vrai que je pense aujourd'hui avoir une offre à minima végétarienne, voire carrément végétale. Sur la carte, c'est pas déconnant et ça serait même important.
T'as pas envie, enfin même en étant pas, enfin en mangeant de la viande et du poisson, j'ai pas envie d'en manger tous les jours, tout le temps, chaque sortie au restaurant. De la même façon aujourd'hui que, enfin tu peux boire de l'alcool et aussi, enfin mais pas forcément à tous les repas quoi.
Mais je trouve ça complètement rassurant que le côté manichéen ou que les dichotomies se soient effacées. Et que ce soit plus oui les pros et les anti et il y a les méchants bouchers, les gentils véganes ou les véganes complètement débiles et le gras c'est la vie, nous les mangeurs de cochons.
D'ailleurs c'est trop drôle
sur la viande ou c'est pareil sur les poissons.
Quand je pense que t'as fait tes essais chez Bien Élevé, c'est quand même assez marrant. Enfin j'avais pas relevé sur le moment mais tu vois.
Oui Bien Élevé qui on peut le rappeler c'est un restaurant sur la viande, viandes de très belle qualité. D'ailleurs Arthur a priori il va reprendre un élevage pour dire à quel point il est soucieux aussi du bien-être des bêtes et de la qualité.
Il est ouvert et toi aussi.
C'est ça. Exactement. Et nous, on se parle complètement. Et c'est pour ça que je te dis, c'est rassurant que ces frontières qui étaient autrefois des lignes rouges soient en fait, deviennent c'est des coutures invisibles aujourd'hui. C'est génial parce qu'à la fin, je pense que on s'engage tous pour la même chose, qui est un mieux manger, un mieux consommer, un moins de viande, un mieux de viande. Et c'est là que je trouve que le changement est intéressant. Et en plus. Et aspirationnel pour les gens. Parce que si tu montres un nouveau modèle aux gens en disant « Vous ne mangerez plus jamais ça, vous ne consommerez plus jamais rien, vous ne prendrez plus jamais l'avion », mais en fait, ça donne tellement pas envie que limite, tu prends une réaction épidermique contraire et que tu vas dire « Non, mais là, il faut arrêter de m'emmerder, je vais au contraire... »
Je vais faire toutes mes vacances en avion.
c'est un peu ça, et je vais manger que de la côte de bœuf argentine en habitant à Paris.
En roulant en 4x4.
En roulant en 4x4. Et alors que si tu proposes des modèles plus doux, on parlait d'inclusivité tout à l'heure, des modèles qui sont dans l'amour, dans la bienveillance, au lieu de s'ériger les uns contre les autres, c'est là où je pense qu'on peut faire vraiment avancer les choses. Et c'est vrai que c'est mignon le clin d'œil que en fait, Faubourg des Monts soit né chez Bien Élevé.
Et c'est une cuisine, en revanche, j'ai l'impression, très technique.
C'est vrai que c'est tout à fait une cuisine assez technique et c'est pour ça que je te disais aussi que le fait que le projet ait pris plus de temps que prévu a été un mal pour un bien. Ça nous a permis un temps supplémentaire, je vais dire un mot un peu barbare, de recherche et développement. Ça fait très, on travaille dans l'agroalimentaire. Mais c'est pas ça, mais il y a vraiment de la recherche parce que déjà, c'est des choses qu'on connaissait pas avant.
En fait.
Et
tu vois, je trouve qu'on mange les recettes et qu'on vient plusieurs fois et je trouve qu'on vraiment, on sent qu'il y a du travail dans les assiettes et tu vois, c'est pas des assiettes ou un resto que vous avez bricolé, quelque chose que vous avez bricolé sur un coin de table, et même chez Plan D, et c'est ça que j'apprécie aussi. Je trouve qu'il y a de la recherche derrière, il y a eu du travail, quoi, pour sortir ça.
Ah, c'est très gentil ce que tu me dis.
C'est pas gentil, c'est vrai.
Ça passe vrai, authentique et gentil. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir venant de toi qui a un palais à guérir.
Et je trouve que, waouh, quoi. Oh, tu vois.
Merci, ça me touche énormément.
C'est pas une cuisine facile à refaire, à faire, à refaire. C'est il y a du travail, on sent qu'il y a eu du travail et c'est chouette, tu vois, de goûter quelque chose de nouveau aussi.
J'espère, c'est génial, c'est tout le but que tu me dises. J'ai passé un super moment, c'était vraiment bon et j'ai senti l'amour, le travail, la recherche qu'il y a eu dans les plats et c'est pas un truc concept ficelé en 2 mois avec un consultant pour ouais. sortir une carte. Non, parce que c'est tout le contraire de ça. Et tant mieux que... Vraiment, mais je ne peux pas être plus heureuse que d'entendre cela. Plan D, aussi, on dit souvent, c'est pas parce qu'on fait de la street food qu'on ne fait pas de la vraie cuisine. Ça, ça a toujours été important. On a mis autant de savoir-faire et de cœur à Plan D qu'on le met dans les recettes ici au Faubourg des Mans. Et c'est vrai que c'est une cuisine technique. C'est une cuisine qui nécessite le temps long, qui nécessite du travail de la main. Je pense pour tous les auditeurs qui cuisinent, ils s'en rendent compte. En fait, faire des légumes, c'est long. C'est long, ça prend du temps. Il faut éplucher, il faut tailler pour leur donner du goût, de la saveur, de la sapidité. T'as besoin de les mijoter, tu fais mariner. Enfin, tout nécessite énormément de temps. D'autant plus que nous, on s'est toujours érigé contre tous les produits simili-viande, simili-fromage, qui eux sont vraiment des raccourcis hein, pour cuisiner. Mais qui sont, je trouve, ni gustativement, ni nutritivement, ni émotionnellement intéressant.
On sait pas ce qu'il y a. Enfin,
on sait pas ce qu'il y a.
On sait plus.
Mais ça fait un peu la trouille. Parce que j'ai vu des vidéos quand on fait du Beyond Meat ou des steaks végétaux, ça fout un peu la trouille,
ouais,
hein.
Ouais.
Ça fout un peu la trouille. Et puis, c'est hyper industrialisé, etc.
Complètement.
Mais je suis pas contre ça parce qu'à la fin, ce sera peut-être un des moyens pour végétaliser et un des moyens pour qu'on puisse manger plus. C'est ça, à grande échelle, exactement. À mon avis, c'est une nécessité aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on désire. Et c'est pour ça que cette cuisine est extrêmement technique. Parce que, imagine-toi, il n'y a aucun produit chez nous qui n'est pas cuisiné, transformé par nos soins. Quand je dis transformé, pas du tout dans le sens de produit transformé de l'agro, mais je parle transformé chez nous.
Toutes les sauces.
Toutes les sauces et tous les produits. Parce que tu peux pas, comme avec un morceau de fromage que tu vas juste faire fondre, tu vois, sur un plat, ou comme un morceau de viande que tu viendrais bien cuire et tu fais une belle sauce et une garniture à côté et ça te fait un plat. Nous, il n'y a aucun produit où je te dis juste, oui, on fait un aller-retour pour ces légumes-là. Non, en fait, les sauces sont toujours des extractions, des réductions, des filtrations. Les cuissons, ça passe généralement, je prends n'importe quoi. Pas n'importe quoi, je vais respecter un peu ma carotte. Mais je vais prendre un exemple avec le corn dog de carotte aujourd'hui. Bah, faire un corn dog comme ça, c'est évidemment le clin d'œil à la recette avec la saucisse qu'on vient mettre dans une pâte chapelure et qu'on vient frire. Là, la carotte, d'abord, elle est préalablement confite et on va y mettre des choses fumées pour qu'elle soit confite avec un bon goût et qu'il y a un intérêt quand tu manges la carotte en elle-même et que ce soit pas que le côté gourmand rassurant de la panure puis de la sauce. Et en fait, tu multiplies tout ça, en fait, tu rajoutes 2, 3, 4, 5, 6 étapes par recette, et c'est là où il y a une recette technique, et c'est là aussi où cette cuisine, elle reste amusante, et puis un grand défi, un océan, enfin, un continent plutôt à découvrir.
Et pour revenir au mot dément, c'est pareil, il était là depuis le début, hein, je crois, ce mot.
Oui.
Où est-ce qu'il vient?
Le mot dément, alors c'est un peu plus bête que ce qu'on imagine parfois. Parfois on me dit, ah oui, ça fait un nom très français comme votre cuisine, c'est le nom d'une grand-mère, etc. Mais alors, pas du tout, hein. Déjà, ma grand-mère s'appelle Tuyette comme moi. Du coup, on n'est pas allé chercher sur ce registre-là. Non, dément, c'est parce que je voulais absolument avoir le mot amour. Du coup, dément parce que nous sommes aimants et dément parce que nous sommes déments. Nous avons notre petit côté foufou et qu'on avait envie de faire quelque chose de fun. C'est important de garder cette légèreté, cette joie de vivre à la française, cette désinvolture qu'on adore, cette art de vivre-là, par rapport à tout ce qui pourrait être lourd, justement, d'engagement, de grands principes, de grandes valeurs qu'on porte aussi.
Sérieux, mais sans être sérieux.
Exactement.
Et collective, t'en parlais tout à l'heure, moi, ça me faisait penser, enfin, une idée de famille, mais aussi de voir les choses en grand avec l'idée d'un groupe peut-être
exactement.
Qu'il y a cette idée quand même derrière la tête quelque part ou pas encore ou
mais complètement mais c'est pour ça qu'il est depuis le départ. Non, et collectif est vrai. Évidemment on parlait de l'histoire du travail extrêmement collaboratif et presque familial hein, d'ailleurs des gens qui parlent de famille dans la restauration nous sans aller jusque là mais vraiment cette idée de voilà, la collaboration, le collectif, c'est quelque chose qui est au cœur des projets. Et puis au-delà, évidemment, tu l'as bien compris, le groupe, on est extrêmement ambitieux. Moi aussi, j'ai beaucoup d'ambition pour porter cette cuisine le plus fort, le plus haut, le plus loin. Et j'ai clairement aujourd'hui envie de monter le premier groupe de restauration végétale, pas qu'en France, dans le monde. Et je mets pas de limite à cette ambition-là. J'en parlais plus tôt ce matin, on me disait « Oui, quelle est ton ambition ?» etc. Parce que souvent, en plus, quand on voit une femme, on pense pas forcément à ça. Bah ouais, non, en fait, je l'assume complètement et j'ai envie qu'on aille très loin parce qu'aussi, tout simplement, plus on sert de repas, plus on a de l'impact. Et tu vois, aujourd'hui, on doit être entre 200 et 400 repas par jour sur les différents restaurants. Je me dis, mais c'est génial. Tu vois, ça me donne la niaque le matin. Et quand je suis pas en forme, je me dis, mais t'as pas le droit de pas être en forme. En fait, c'est génial. Aujourd'hui, t'as encore la possibilité de changer concrètement le monde. Et on le change concrètement, d'autant plus que tu le disais plus tôt, nos clients, on n'est pas dans un entre-soi. On fait pas de la cuisine végétalienne pour les végétaliens, pour les végétariens. On a des clients qui viennent vraiment de tout horizon, de toute culture culinaire. Et à partir du moment où on change les repas pour 200 à 400 personnes par jour, mais c'est génial. Et j'ai envie de le multiplier et d'aller encore plus loin.
Est-ce qu'il y a des gens qui ressortent sans s'être rendu compte qu'ils ont mangé végétarien?
Bah, écoute, j'ai pas encore eu ma petite anecdote marrante au Faubourg des Mans qu'on vient d'ouvrir il y a 3 mois, mais franchement, j'en ai eu des gratinés à Plandé. Ouais. J'ai un client une fois qui revient en disant, ah, mais est-ce que je peux reprendre le sandwich au saumon que j'ai pris la dernière fois? Monsieur, on n'a pas de sandwich au saumon, désolé. C'est et tout. Vous êtes sûr, c'était peut-être à côté et tout. Non, mais si, vous aviez le sandwich orange là avec le saumon, le morceau de saumon, le truc orange et tout. Si, bah non. Non, c'était du butternut. Ou pareil, quand on faisait du chou-fleur pané, ouais. On m'a dit, évidemment. Au poulet, exactement, au poulet. Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas posé la question du manque un seul instant. Ils ne se sont pas dit, tiens, il m'a manqué quelque chose pendant le repas. Et j'en suis super fière, tu vois. Rien qu'un truc bête ici. On a un plat de pâtes qui est assez emblématique, là, qu'on a laissé depuis l'ouverture, qui marche super bien. C'est les tzuka et pépé. C'est un petit, évidemment, clin d'œil au cacio et pépé. Je voulais ce côté réconfortant, crémeux, d'une pâte en même temps très poivrée. Tu vois, la cuisine pauvre italienne, mais tu vois, t'as le gras et on contrebalance avec le poids. Jamais on nous a demandé du parmesan. Tu vois, un truc comme ça. C'est tout bête. Et l'autre jour aussi, on avait un client quand même qui nous a demandé 3 ou 4 fois si on était vraiment sûr qu'il n'y ait pas de porc dans les croquettes cochon. Parce qu'il avait un régime alimentaire sans porc, et il n'y croyait pas. Du coup, j'imagine qu'aussi, il y en a, ils ne se rendent pas compte.
Ouais, ouais.
Pas encore
non, mais c'est ça qui est génial, parce que je pense que si tu ne le dis pas, il y a vraiment des gens qui, de par les intitulés et par le fait que ce soit hyper gourmand et comme tu dis, il n'y a pas de manque. Enfin, tu te rends compte justement que finalement, quand c'est bien préparé, ça ne te manque pas ni la viande ni le poisson. Et bon, bref, je me posais la question. Donc, il y a vraiment des gens qui ne se sont pas rendus compte.
Je pense qu'en plus, il y a beaucoup de personnes qui, certes, se rendent compte que c'est sûrement végétarien parce que bon, au bout d'un moment, ils voient qu'il n'y a pas de viande, pas de poisson. Ouais. Mais ils ne se poseraient pas la question une seconde sur... Ouais, c'est un peu fade. En fait, il n'y a peut-être pas non plus de beurre, il n'y a pas non plus ça. Et en fait, c'est là où le vrai pari, il est réussi pour nous. C'est quand le client ne se pose même pas la question.
Tout à fait. On va passer aux petites questions aller-retour. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la relève ?
La relève, c'est la nouvelle génération qui va casser les codes.
Ton nouveau kiff culinaire ?
La mélasse de grenade.
T'en mets partout.
Je commence à en mettre pas mal dans les sauces, alors que franchement, on prend quasiment aucun produit qui vient de l'étranger, tu vois. Et mais bon, la mélasse de grenade, souvent ça contrebalance. Et tu vois, moi j'ai quand même le fond de le palais asiatique où on mange beaucoup des choses sucrées, salées, ouais. acides, gras et tout. Et c'est vrai que pour la touche salée, en même temps, qui reste florale et fruitée, c'est très très agréable.
Ouais. Ton livre de recettes secret.
Il y en a un auquel je suis beaucoup revenue, j'en ai presque honte, mais c'est le Michel Guérard pour les enfants. J'ai appris la cuisine dedans quand j'étais petite. Je l'ai vraiment réouvert. Enfin, je le rouvre de temps en temps parce que c'est vraiment... Ça a ce côté extrêmement basique, mais évidemment extrêmement bien fait par un grand chef, et en plus avec des vraies recettes qui marchent.
Une technique découverte récemment.
En ce moment, je suis à fond en train d'expérimenter sur la fermentation, notamment avec des laits végétaux, tu vois, pour travailler sur des yaourts, etc. C'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout, la fermentation sur ce type de produit-là. Et ouais, je pense qu'on pourra faire des choses très intéressantes dans l'année à venir ou les années à venir.
Du faux fromage.
Je ne vais pas aller là-dessus. Non, c'est simplement pour avoir du crémeux sur un plat. Mais je crois... Il ne faut jamais dire jamais, hein, parce qu'on va me repasser l'enregistrement. Mais je ne crois pas que, de mon vivant, je ferai du faux fromage.
Le chef ou la chef montante à suivre?
Justine Pruvot, évidemment.
Un nouveau compte Insta que tu veux nous faire découvrir?
Il n'est pas du tout nouveau, hein. Mais j'aime beaucoup pour son esthétique Caro Diario. C'est ça le nom, c'est Diario. Non, j'aime beaucoup l'esthétique un peu kitsch. En même temps, c'est hyper pointu, c'est beau. Magnifique.
Merci. les questions à les ressources sont terminées. Est-ce que tu te sens plus restauratrice, cuisinière, entrepreneur? Tu te sens quoi aujourd'hui?
J'ai cru que t'allais mettre chef en plus dans les questions. Je me suis dit, bon, non, au moins, il y en a un que je vais éliminer facilement.
Je l'ai enlevé.
Alors que les autres, c'est plus compliqué.
Tu te présentes comment?
Je me présente souvent comme restauratrice. C'est ce qui me caractérise aujourd'hui d'avoir des restaurants. Mais je me sens très entrepreneur dans l'âme. Et tu vois, au-delà de ce que tu fais avec ta boîte, le côté entrepreneur, de j'entreprends ma vie, je prends le pouvoir sur ma vie, je décide de ce que je fais. Et j'ai envie d'embarquer les gens avec nous là-dessus. Et c'est cette énergie-là que j'ai vraiment, tu vois, plus que l'aspect business, mais vraiment l'aspect comment est-ce qu'on crée quelque chose de nouveau, on met en action pour créer du changement.
Et donc, ton quotidien, il est un peu de cuisine, un peu d'activité liée au restaurant aussi, et de l'entrepreneuriat dédié à la boîte, en fait.
C'est tout ça vraiment intriqué. Et il n'y a pas une journée qui se ressemble, parce que ce qui, je pense aussi, le quotidien riche et extrêmement vivant, et c'est ce que je recherchais aussi en faisant ce métier, d'avoir tellement de choses. Oui, t'as des choses extrêmement opérationnelles. Il y a un jour, hier, on a eu un souci de chauffage au restaurant. Il faut gérer des problèmes opérationnels, logistiques au quotidien. T'as tout un aspect de gestion de la boîte. J'ai évidemment de la cuisine. Comment est-ce qu'on développe la boîte demain? Comment est-ce qu'on trouve de l'argent pour développer la boîte? Et deux obsessions, enfin, je dirais même trois que j'ai qui sont quotidiennes, qui se rajoutent un petit peu à tout ça, qui sont la marque. Aujourd'hui, je pense que c'est très important qu'on réussisse à faire une marque. C'est par la marque que les gens, en fait, connaissent en tout cas le projet, qu'ils y reviennent. C'est par la qualité de l'expérience qu'on propose, mais en tout cas, la marque est très, très importante. Les ressources humaines, c'est clé. C'est un métier d'humain, c'est un métier de service, c'est un métier qui ne peut passer que par et pour les hommes et les femmes. Et l'immobilier, j'ai envie de te dire, parce qu'aujourd'hui, quand on veut se développer, c'est une vraie question de comment est-ce qu'on trouve des locaux dans des villes complètement saturées comme Paris. C'est extrêmement complexe. Et puis, aujourd'hui, dans le quotidien, quelque chose se rajoute. On va avoir un livre de recettes qui sort l'année prochaine.
Trop bien. J'allais te demander, c'est marrant, je me dis vivement le livre de recettes pour apprendre à faire la mayo vegan. Trop bien. Donc ouais, c'est un gros morceau aussi.
C'est un gros morceau aussi, ouais. Là, qui se profile en ce moment.
Non, mais c'est vrai que c'est pas que c'est indispensable aujourd'hui, mais c'est cool de pouvoir transmettre aussi ça, même si, je sais pas si c'est un livre de recettes qui est adapté, ou si c'est les recettes de Dément ou adaptées au grand public, mais c'est chouette de pouvoir.
Ça va vraiment être Alice Tuyette et Dément Collectif, du coup, avec une idée, je mets une partie des recettes qu'on sert au restaurant, toujours en version simplifiée. J'ai pas envie d'avoir un livre de cuisine où 40 ingrédients sur 50, tu les as pas dans ta cuisine, ouais. Et en fait, c'est un livre que tu utilises jamais.
Un livre de chef.
En même temps, exactement, tu vas avoir des choses qui restent, tu vois, avec une certaine complexité, mais rendues un petit peu plus accessibles. Des recettes que moi, je fais vraiment à la maison aussi, dans mon quotidien.
Trop bien.
Et tout ça avec l'idée que, encore une fois, le restaurant, c'est super de vivre l'expérience au restaurant. Mais je pense que ça peut se prolonger aussi à la maison. On parlait de comment végétaliser d'une façon simple son alimentation. Et moi, je vois, on a été confrontés de manière extrêmement récurrente à des clients qui nous disent « Ouais, c'est super de venir chez vous, mais en fait, chez moi, je m'en sens complètement incapable. » Et ça peut paraître intimidant comme cuisine. Et je pense qu'avec des petites choses simples, et notamment sur le travail des sauces, on peut faire des sauces qui sont pas les jus réduits qu'on fait au restaurant, mais tu vois, des sauces qui sont beaucoup plus accessibles et qui te rendent beaucoup plus fun l'approche des légumes. Et ça va dans la droite lignée du fait que quand les gens viennent au restaurant, ils disent « Au moins, c'est possible déjà de faire un repas végétal. » Ils se disent, tu plantes une graine quelque part. C'est bon. En fait, c'est possible parce que c'était bon et du coup, je me sens de le répliquer. Et c'est là où le changement aussi, il est intéressant. C'est au-delà du one shot dans le restaurant, ou même s'ils viennent une fois par mois ou une fois tous les deux mois ou je ne sais quoi. C'est aussi que tu te poses peut-être des questions sur comment tu manges à la maison.
Changer les mentalités, effectivement. Enfin, en tout cas, contribuer à les faire évoluer.
Décloisonner, encore une fois. Je te parlais du pont, décloisonner de l'inclusivité. Ça passe par donner les outils et les codes aux personnes.
Quand tu parles du livre, je me posais la question tout à l'heure et elle est partie, elle revient. Est-ce que tu as des chefs qui sont venus te voir, qui ont eu une curiosité pour la technique, les techniques que vous avez mises en place autour des sauces de légumes?
Ouais, franchement, j'ai... ça suscite un petit peu ouais. d'intérêt et des questionnements sur ce qu'on fait. Et on est hyper contents d'avoir des chefs comme Adam Bentala ou Romain Méder ou qui sont venus au restaurant. Et en fait, tout ça, c'est quand même assez génial. Et on est en communication aussi avec plein de chefs. Pierre Gagnère était quelqu'un aussi qui m'avait conseillé sur l'ouverture du restaurant. Enfin, je sens qu'il y a un vrai intérêt. Quand je parlais juste du projet sur le papier, je me disais ok, un peu bizarre et ouais. tout. Et puis quand les gens goûtent, c'est là où il y a la vraie conviction et où je suis souvent en échange. Enfin, la période récente, je parlais avec Thomas Graham qui était au Mermoz. Enfin, tout un tas de chefs qui, en effet, aussi repensent leur cuisine. Et c'est génial, en fait, de pouvoir tous échanger là-dessus, parce qu'on en parle aussi tout à l'heure. Après-demain, tous les restaurants auront un plat végétal. Et je trouve aussi ça génial, c'est en fait, il y a des chefs qui se disent même, en fait, il y aura un élément végétal ou végan, mais je ne vais même pas le proclamer en tant que tel. C'est juste que ce jus, je le trouve super bon. Du coup, je vais le mettre sur une assiette, tout court, en fait, pas parce qu'il était végétal, juste parce qu'il était très bon.
Non, mais je trouve que, bah, voilà, dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure sur la technique et tout ça, c'est vrai que il y a quelque chose quand même de nouveau. Enfin voilà, vous apportez quand même une dimension nouvelle qui est hyper intéressante quand t'es cuisinier, quand t'es là-dedans.
Ah, ça c'est cool, on a plein de clients qui viennent du milieu. Ouais. Et puis aussi c'est l'intérêt d'avoir un restaurant qui est ouvert le dimanche et le lundi, c'est que tu as toutes les personnes qui travaillent dans la restauration.
Tout à fait. Et pour revenir à comment tu te définis et tu te sens, tu as ta place aujourd'hui, fini les réorientations.
Mais pas du tout.
Non, c'est enfin, la blague.
Ça sera un processus sans fin. Tu sais, moi, je pense que la vie est une danse. La vie est un changement perpétuel. Et la vie, c'est les contraires. Tu sais, c'est le taoïsme. Hein. Enfin, moi, j'ai été élevée là-dedans. Le Tao, c'est tout simplement comment, à un niveau supérieur de conscience, les contraires se réunissent. Et je crois que, tu vois, au-delà de ce qui est en apparence complètement contraire, en fait, il y a une continuité complète dans tout ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me ferme pas la porte demain à aller faire de l'hôtellerie, à être peintre. Je peins beaucoup, moi je sais qu'un jour aussi j'aurais envie vraiment de m'exposer là-dessus, d'écrire encore plus. Enfin, je trouve toutes ces expressions qui sont que des signes en fait tournés vers les autres, qui ne sont que poésie, qui ne sont que amour pour le monde, ce qui sont mes valeurs principales, hein, de vivre dans la joie, dans l'amour, dans la création, de vivre complètement entouré des autres et de vivre pour servir les autres, ça peut prendre des formes diverses et j'y vois une continuité comme ça dans tout ce que j'ai fait. Mais
un cheminement.
Ouais, complètement. Et je pense que c'est beaucoup plus un continuum justement que des accidents de vie ou des virages à 360 degrés. Enfin, non, justement un virage à 360 degrés, c'est revenir au point de départ. Du coup, c'est un virage à 180. Tu vois, le lapsus révélateur, c'est justement pour te dire que je ne reviens que à moi-même. mais j'aime tellement ça à la cuisine et je sais que ça sera toujours au cœur de tous mes projets et en servant la grande cause qui est la cause animale et l'intérêt pour autrui. Et je sais que je peux tellement encore exprimer de choses là-dessus que ça, je ne pense pas trop m'avancer en disant que ça m'occupera toute ma vie.
Tout à l'heure, tu parlais des ressources humaines. Tu m'as confié l'autre jour, je crois que vous êtes 80 au total chez Démon Collective.
Non, on est moins, non. On est très ambitieux. Non, on est deux fois moins.
Deux fois moins.
Ouais.
Alors, je me suis trompée. Donc, je recommence. Tu m'as confié que vous étiez 40, ce qui est déjà énorme. T'es quel genre de manageuse, est-ce que c'est toi qui gères cette partie et comment?
On la gère à plusieurs et j'ai envie de dire aussi, en fait, chaque personne qui a quelqu'un sous sa responsabilité gère une partie ressources humaines dans l'entreprise. Évidemment, quand on est le ou la chef d'entreprise, c'est nous qui impulsons la direction et qui montrons un exemple. Mais là-dessus, je te disais tout à l'heure, c'est vraiment la base de l'entreprise. On a un métier de service, encore une fois, un métier d'humain. C'est essentiel, la question des ressources humaines. Et d'autant plus toi qui côtoies plus que quiconque, les chefs, etc., et les entreprises dans l'hôtellerie, la restauration. Il faut donner envie aux gens de bosser dans ces métiers-là et d'y rester. Et en fait, il y a eu des conditions qui étaient tellement intolérables à une époque que, bien sûr, il fallait revoir tout ça à la base. Et d'autant plus avec un projet comme le nôtre, souvent, mais ça sert à rien d'avoir des grands projets, de prôner le végétalisme, de parler d'environnement, de parler des animaux, quand en fait, chez soi, on n'est même pas capable d'être gentil et de penser au bien-être de ses équipes. La première chose, c'est là. C'est là dont il faut s'en occuper. Et pour autant, je pense qu'on peut tout à fait être exigeant et mettre la barre haute et être ambitieux. Et aujourd'hui, pour moi, tout le défi qu'on a tous en tant que responsable, moi comme chef d'entreprise, c'est d'être à la fois exigeant, juste et gentil. Franchement, pour moi, c'est les trois choses, et les trois choses peuvent être tenues. Alors qu'avant, l'exigence était beaucoup plus caricaturée, dans la violence ou la brutalité, alors qu'en fait, on peut être exigeant et gentil. Et aussi arriver avec un grand sourire le matin au boulot et pas en tirant la tronche parce qu'il y a un truc qui s'est mal passé au service la veille. En fait, non. Et on peut se dire les mêmes choses. Mais ça change complètement, complètement la donne. Et aussi, là, on a voulu insuffler quelque chose de nouveau. Enfin, je sais, des restaurateurs le font aujourd'hui, mais c'était pas la norme avant. C'est aussi de prendre le temps de s'asseoir à un moment donné autour d'une table. C'est un métier qui est tellement dans l'immédiateté. Tu as le coup de feu. Bah, en fait, naturellement, intrinsèquement, il y a du stress dans la restauration. Et en fait, déjà, de savoir s'asseoir, de savoir poser les problèmes, que chacun puisse parler, que on trouve ensemble collaborativement des solutions. Ça, c'est super important. Mais toujours aussi, voilà, dans l'exigence, on reste une entreprise et on est obligé, pour que ça fonctionne, d'atteindre certains résultats. Là, je trouvais ça trop dommage d'avoir une vision complètement manichéenne de la situation. Et soit, soit on est en mode hippie roue libre, ou soit c'est la brutalité et l'exigence.
Mais ça reste un défi d'être à la fois exigeant, ambitieux, de vouloir progresser, et en même temps, tu vois, d'avoir du respect. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est effectivement possible de faire cohabiter tout ça, mais c'est un défi quotidien.
Ah, bien sûr. Ça, c'est un défi. Voilà. C'est un défi quotidien. Et je pense que ça demande de soi-même se maîtriser sans trop de violence. Et les gens qui sont violents aussi le sont avec eux-mêmes. Et je pense que tout ça, c'est des questions vraiment à revoir. Et tu vois, moi, en ayant évolué en plus avant dans la danse, où moi, ma prof de danse me disait toujours, oui, de toute façon, c'est une machine à broyer les faibles. Et moi, j'ai grandi de toute façon dans un environnement extrêmement exigeant avec mes parents, à l'école de danse, enfin, partout. J'étais dans des milieux où j'ai toujours voulu être la meilleure, et où en plus, enfin, l'environnement était déjà, et la compétition, et avec des gens qui étaient très, voire trop durs. Plus après, moi, honnêtement, j'ai quelques expériences en cuisine où j'étais que dans des brigades de mecs avec tous les clichés et les blagues qui n'en sont pas, en fait. C'est juste du harcèlement. On disait des blagues de cul, etc. À ton encontre. Tout ça, en fait, c'est des choses qui, clairement, on ne veut pas. Et moi, je suis fondamentalement convaincue qu'il y a une façon de progresser, comme tu disais, de devenir la meilleure version de soi-même, et d'être exigeant. Sans le vivre dans la brutalité. Et c'est comme ça que ça dure aussi. Parce que je suis sûre que l'autre technique, ça marche pleine, mais t'es brûlée. Enfin, ça dure 1 an, ça dure 2 ans, ça dure 10 ans. Mais
ça, ça ressort d'une façon ou d'une autre et pas.
Et en plus, là où je trouve ça grave, c'est que la question qu'on ne se pose pas, c'est quand tu commences à perpétrer ce genre de comportement et ce genre de violence, parce qu'en fait, au-delà de toucher cette personne, tu vas toucher plein d'autres personnes, parce que la personne à qui tu vas le faire, elle va le reproduire. Parce que qu'est-ce qui se passe avec beaucoup aussi, tu le vois avec tes cuisiniers ou tes cuisinières, et qui disent, bah, je sais pas, on a toujours fait comme ça. Ce qui est une explication qui est souvent pour cacher des comportements qui sont pas les bons. Bah, du coup, faut réfléchir, en fait, quand tu perpétues ce genre de comportement, c'est que tu n'impactes pas qu'une personne, tu impactes potentiellement les personnes qui sont sous la responsabilité de cette personne et les générations à venir. Et c'est là où je me dis, ouais, tu vois, il y a un gros rôle à jouer. Et si tu sais casser ce cercle infernal, cette dynamique, ouais, tu peux changer les choses, pas pour une personne, mais pour deux, pour trois, pour dix.
Tu fais la transition avec ma question d'après sur la question d'être une femme dans le milieu de la restauration. Est-ce que t'en as souffert? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que t'as dû soulever des montagnes? Plus que d'autres.
C'est très difficile à évaluer pour moi si ça a été vraiment plus compliqué que pour d'autres. Je peux parler que de mon expérience personnelle. Et je disais, par exemple, bah, très honnêtement, mon premier restaurant, je n'ai pas réussi à le financer. On a eu que des refus, et bon, après, on s'est retroussé les manches et je me suis dit, on va faire les choses différemment. On ne s'est pas laissé empêcher ou arrêter dans nos rêves par ça. Et je pense que là, ça a joué quand même, devant les banquiers.
Première fois d'expérimentation,
être une femme. Il y a quand même un côté avec une femme. Comme c'est encore attaché à des valeurs de masculinité, de virilité, de force, de puissance physique, etc., à la cuisine, ça fait toujours, je pense, plus peur de laisser les rênes à une femme. évidemment. Et je pense aussi que là où je trouve ça un peu fatigant, c'est si on te demande, tu vois, c'est des petites choses, hein, mais une approche féminine de la cuisine, cuisiner comme une femme, oui, les légumes, c'est pour les femmes. Enfin, tu vois, c'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui, à la fin, je pense, font mal et font mal aux toutes les générations futures, non seulement de petites filles, mais de petits garçons aussi. Hein, parce que pourquoi il y aurait des choses autorisées pour les filles et pour les garçons? Et ça, je pense aussi, ça reste une forme de violence. Et enfin, je vais quand même peut-être dire quelque chose à contre-courant, mais ça aide aussi, sur certains aspects, d'être une femme. Parce que, c'est sûr, il y a une nouveauté. Les gens ont un attrait pour la nouveauté. Et parfois, on va plus parler de ton projet parce qu'il est porté par une femme. Ou aussi, le charme peut agir, tu vois, sur certaines choses. Il faut
savoir en jouer.
Faut savoir en jouer. Il faut pas... Enfin, je sais même pas s'il faut savoir en jouer. Peut-être c'est pas bien du tout, hein, tu vois. Peut-être c'est justement complètement... anti-féministe à mort et tout. Mais d'un autre côté, bon, on en a tellement souffert avant que why not si aujourd'hui on peut reprendre un peu d'avance et utiliser tout ce qu'on peut pour y arriver. Enfin, tout ce qu'on peut, toute proportion gardée. Hein, j'appelle ça faubourdément maison des plaisirs, mais ce n'est pas...
C'est pas ce qu'on croit.
C'est juste un charme de la discussion, etc. Mais tu vois, pour revenir aussi à un truc pénible sur les remarques, c'est souvent « Ah, elle réussit son entreprise et elle est jolie. Ah, elle est bonne chef et en plus elle est jolie. » Enfin, juste, on va vachement commenter le physique, l'apparence pour une femme, ce qu'on ferait pas du tout, ou très très marginalement pour un homme. Mais tu vois, comme ça, j'ai du mal, tu vois. Enfin, et après aussi, je te parlais de mes expériences en cuisine tout à l'heure, où forcément, en étant une femme dans des brigades d'hommes, bah, tu souffres plus. Tu souffres beaucoup plus. Et ça, c'est pas acceptable. Mais après, dans mon parcours, ouais, je te disais, ouais, peut-être monter mon premier restaurant, c'était plus compliqué. Mais aujourd'hui, j'en perçois aussi certains aspects qui me bénéficient.
Après, ces projets bien différents, tu as envie de quoi pour la suite?
J'ai envie de bouffer le monde. Sans bouffer les animaux.
L'étranger. Non, tu parlais d'un groupe.
D'en ouvrir plusieurs à Paris, d'en ouvrir ailleurs en France et d'en ouvrir bien sûr à l'étranger. Ouais, on a envie d'aller à l'étranger et de montrer toujours ce savoir-faire français. Je te parle aussi de notre identité française. Parce que je pense qu'on fait une cuisine profondément française. Elle est actualisée aujourd'hui avec les défis de notre génération, les questions éthiques qu'on a, les questions environnementales. Mais c'est une cuisine française en ce sens que c'est une cuisine de sauce, c'est une cuisine de goût, c'est une cuisine de justesse et de cuisson. Et tout ça, je pense que c'est un savoir-faire qui peut être clairement exporté aussi à l'étranger. Et je te le disais aussi, moi, plus on pourra servir de personnes qui iront vers cette alimentation-là, mais en fait, c'est génial. Et moi, j'ai envie de changer le monde, j'ai envie de mettre plus d'amour dans le monde. Et c'est mon rêve absolu, c'est ce que je poursuis chaque jour.
Dernière question, une petite recette qu'on peut faire à la maison pour cuisiner comme toi. Avant le livre,
je vais donner en exclu. Pour cuisiner comme moi, je vais te donner un truc très simple que je me fais très souvent moi à la maison. Alors, là, c'est vraiment les recettes parce qu'on peut pas donner de grammage, de trucs et tout. Je prends à peu près tous les légumes des saisons. Je commence évidemment par faire suer un oignon, garniture aromatique, de l'ail, machin, dans l'huile d'olive. Après, je mets tous les légumes, évidemment, ceux qui prennent le plus de temps à cuire en premier. Bon, vous voyez, c'est généralement les légumes les plus durs. Bon, sauf la patate douce qui cuit très vite et tout. Et je fais mijoter ça. J'appelle ça mon stew, c'est-à-dire mon mijoté. Et c'est ma sorte de...
Avec de l'eau, non?
Oh, si, pardon. Je mouille à hauteur, tu vois, mais moins que pour une soupe, disons. Ouais. Et après, je me le réchauffe et je mets des épices différentes. On prend toujours nos épices chez Nomi et je vais aller mettre du za'atar ou je vais mettre du sumac ou les différents mélanges d'épices qu'ils ont. Et ça, c'est un super truc. Et j'aime bien garder des morceaux, tu vois, justement, que ce soit pas mixé comme une soupe, mais j'ai un côté, c'est un mijoté. Je vais le manger avec du... Je mange beaucoup de riz, moi. Ouais, un ragoût, voilà. Et plus tu le cuis, tu le recuis, plus ça accroche et tout. Bon, c'est bon. Bon, j'ai pas sorti la version la plus galère de moi-même en disant cuisiner comme moi et tout. Mais ça, je trouve ça génial. Et puis, en fait, c'était pas manger des légumes, ça va pas être manger que des salades. Et ça, vous pouvez le faire à l'avance. On fait des grosses quantités. Tu fais ça au frigo, tu fais ça, tu mets ça au congélateur. Ceux qui mangent de la viande, tu peux rajouter de la viande dedans, tu peux mettre des champignons en plus. Enfin, moi, c'est une super base que j'ai tout le temps chez moi.
Merci Alice.
Merci à toi Julie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir au Faubourg et de m'interviewer.
Avec plaisir.
C'était Alice Tuyette de Plan D et Faubourg des Monts. Pour goûter ce qu'elle a dans la poêle, rendez-vous à Paris, chez Plan D, rue des Vinaigriers, et chez Faubourg des Monts, rue du Faubourg Poissonnière. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description de l'épisode et évidemment la suivre sur Instagram, sur son compte Alice Tuyette, tout attaché, et desmonts.co. Vous pouvez réécouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site agence-larelève.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur Apoil Podcast et agence_larelève sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Apoil.